Bonjour à toutes, bonjour à tous, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime éternellement. Pour ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15. Évangile de Matthieu, au chapitre 15, où nous voulons lire ensemble les versets 21 à 28. Évangile de Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté ou de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » À l'instant même, sa fille fut guérie. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, la puissance de la foi. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le sujet suivant, l'épreuve qui engendre et fortifie la foi. L'épreuve qui engendre et fortifie la foi. Le témoignage que Jésus rend à cette femme au sujet de sa foi triomphante, comme le témoignage de l'Éternel donné au patriarche Jacob concernant son combat victorieux lorsqu'il lutta avec Dieu à Peniel, ces témoignages étonnants, autant que surprenants, m'ont toujours impressionné. À Jacob, Dieu dira « Tu as lutté avec Dieu » et avec des hommes, et tu as été vainqueur. À la femme cananéenne, Jésus dira que ta foi est grande. Va, qu'il te soit fait comme tu veux. Ce qui m'interpelle à propos de ces deux héros de la foi, c'est qu'ils n'étaient plus les mêmes après avoir combattu le bon combat de la foi dans une expérience particulière. Jacob, lui, a reçu un nom nouveau qui correspondait maintenant à sa nouvelle nature d'homme de Dieu régénéré. Et quand on lit attentivement la suite de son histoire, on se rend compte effectivement que Jacob, à partir de cet événement au gué du Yabok, ne sera plus jamais le même homme. La femme cananéenne, quant à elle, a vécu à travers sa rencontre avec Jésus par les changements intérieurs, je devrais dire par le bouleversement intérieur que Jésus provoqua dans son amour pour elle. Elle a vécu une régénération quasi instantanée lorsqu'elle comprit qui était ce Jésus, fils de David, et qu'elle s'écria à genoux devant le Messie, « Oui, Seigneur. » Comme Jésus s'est écrié devant Dieu son Père, « Oui, Père, je viens pour faire ta volonté. » Dès lors, elle s'en alla avec la certitude dans son cœur, « Le Seigneur m'a sauvé de ma misère. Il m'a fait asseoir avec les fils du royaume, à la table du Maître. » Et cette femme cananéenne, qui était grecque, syrophénicienne d'origine, qui est-elle? Quelle est sa situation? Eh bien, comme nous le savons, elle n'est pas issue d'Israël. Il s'agit donc d'une étrangère. Elle est cananéenne, peuple voué à la destruction sous Josué par l'Éternel. Dieu avait donné un ordre à Josué que Israël devait dévouer par interdit tout le peuple des Cananéens. Mais Israël n'a pas obéi. Et le fait que Jésus s'intéresse à elle et s'adresse à elle est la preuve que la grâce divine et salutaire concerne tous les êtres humains, au-delà du peuple juif, au-delà de toute contingence purement humaine et terrestre. De plus, comment cette femme est-elle parvenue à la foi toute relative qu'elle possédait? Car elle n'a pas eu le privilège d'un Zachée ou d'un centenier romain d'habiter au milieu du peuple juif et de voir et d'entendre le Fils de Dieu, Jésus, fils de David, parler du royaume de Dieu. Cependant, elle a entendu parler de Jésus le Christ, de ce Messie, fils de David. Elle a entendu parler de ses miracles, des guérisons qu'il opérait et des paroles qu'il prononçait. Paroles étonnantes. Ainsi, le peu qu'elle a entendu a suffi à la conduire à la foi. Et à quelle foi? Une foi qui l'amène aux pieds de Jésus. Une foi qui lui donnera la force de subir l'épreuve et qui la rendra victorieuse. Une foi, enfin, à laquelle Jésus lui-même va rendre hommage. Tandis que beaucoup de Juifs qui avaient chaque jour l'occasion de voir, d'entendre Jésus, demeuraient incrédules. Et nous, chers amis, nous qui sommes de ceux qui ont beaucoup de lumière, sommes-nous aussi de ceux qui ont beaucoup de foi? Nous trouvons donc dans notre cananéenne un modèle accompli de cette foi toute nouvelle, suscitée et instruite par Dieu, qui lutte et qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, sort triomphante du combat. C'est sur ce combat de la foi que je voudrais méditer avec vous ce matin. Ce combat de la foi se déroulera en trois plans successifs, pendant lesquels la cananéenne devra faire face à trois attitudes différentes de la part du Seigneur. Première étape, au verset 23, c'est le silence. L'étape du silence. Il ne lui répondit que deux mots. Ou trois. Il ne lui répondit pas un mot. Deuxième étape, verset 24, le refus. C'est l'étape du refus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Pas vers les païens. Troisième étape, le verset 26, l'étape du mépris. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Première étape donc, le silence. La femme, sachant que Jésus était là, se met à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » À l'intonation de sa voix, on devine dans ses paroles, dans son cri, une grande souffrance. Une mère qui crie, qui pleure, qui prie pour sa fille. Et Jésus ne lui répondit pas un mot. C'est le silence complet. Elle le cherche, il se cache. Elle l'appelle, il se tait. Pourtant, il a répondu au paralytique. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a rendu la vue à l'aveugle. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Il a purifié le lépreux. Il a ressuscité la fille de Jaïreuse. Il a guéri le serviteur du centenier romain de Capernaum. Il est allé au-devant de ceux qui ne le cherchaient pas. Il a nourri des milliers de gens. Il a même donné de l'eau vive à une Samaritaine. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tous ont été accueillis, soulagés, aidés, guéris. Il n'y a qu'une exception. Moi. Moi. Une mère qui l'implore, non pour elle-même, mais pour sa fille, et qui lui demande en pleurant de la guérir, de la délivrer du démon. Pourquoi cette exception? Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi ce silence? Pourquoi se tait-il? Il ne répond rien. Elle ne comprend pas. Elle ne cherche même pas à comprendre. Mais elle croit à ses promesses et cela lui suffit. Elle sait, elle se souvient qu'il a dit quelque part, « Demandez et vous recevrez. » C'est pourquoi dans sa foi simple, elle est persuadée qu'elle sera exaucée. Ainsi, nous entrons dans la deuxième étape de son combat, le refus. Qu'aurions-nous fait à la place de cette femme?
Eh bien, monsieur le fils de David, si c'est comme ça que tu me reçois, alors je m'en vais. Hein. Je trouverai bien un autre guérisseur qui s'occupera de ma fille et qui la délivrera du démon. Hein. Alors,
Mais que fait cette femme? Elle s'en va en courant? En pleurant? Non. Loin de cette terre, au lieu de pleurer et de s'en aller en courant, elle crie encore plus fort. Voulez-vous que j'essaye?
Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et encore, et encore, et encore.
C'est alors que les disciples interviennent en disant, Seigneur, donne-lui ce qu'elle demande. Miséricorde insondable, réponds à sa demande afin qu'elle s'en aille, car elle nous casse les oreilles, elle nous casse les pieds, elle crie derrière nous. Ne ressemblons-nous pas trop souvent, hélas, aux disciples?
Oh là là, mais cette personne, alors c'est la xème fois qu'elle m'appelle, et puis qu'elle vient me voir, me trouver pour ceci, pour cela, et puis chaque fois que je suis en train de manger, que je suis en train de dîner, de prendre le repas avec ma famille, ou bien que nous sommes sur le point d'aller nous coucher. Oh, mais c'est pas vrai!
Seigneur, tu ne peux pas répondre à toutes ces demandes, qu'on ait la paix. Mais voilà que Jésus parle enfin. Il répond. Mais que dit-il? Et à qui? C'est aux disciples qu'il s'adresse. Mais indirectement, c'est à la Cananéenne qu'il répond. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Un point, un trait. En un mot, c'est le refus.
Si le silence de Jésus pouvait paraître cruel à cette femme, cette réponse est encore plus cruelle. Car lorsqu'il se taisait, elle pouvait toujours encore espérer. Il va, oui, il va me répondre. Mais maintenant, tout espoir s'envole. Jésus lui refuse catégoriquement la guérison de sa fille. Mais ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas du peuple élu. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas venu pour toi. Adieu. Qu'aurions-nous fait à sa place? Que faire alors? Qu'opposer à un tel refus? Si un des disciples lui avait dit, ta demande n'est pas acceptée, elle ne t'est pas accordée, elle en aurait appelé à Jésus, elle aurait fait recours auprès de la plus haute instance. Mais quand le refus vient du maître lui-même, à qui en appeler? Elle ne sait qu'opposer à cette parole, mais elle sent tout au fond de son cœur quelque chose qui parle plus fort encore. Et comme elle a su triompher de son silence, elle va de même triompher de son refus. Car elle ne se croira jamais, jamais, au grand jamais, exclue de la grâce. Et se prosternant aux pieds de Jésus, elle dit, Seigneur, peut-être en pleurant, Seigneur, secours-moi. Comme Jacob, au torrent du Yabok, elle semble dire, je ne te laisserai aller, que tu ne m'aies délivré, que tu ne m'aies exaucé et que tu aies guéri ma fille. Nous entrons maintenant dans la troisième étape de ce combat, le mépris. Voilà que Jésus parle une seconde fois. Ah, cette fois, il va m'accorder ce que je demande. Mais la femme ne s'attendait pas à une telle réponse. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. D'abord, c'est le silence. Ensuite, c'est le refus. Et maintenant, c'est le mépris. Comprenons bien, les enfants, ce sont les Juifs, ce sont les brebis perdues d'Israël, c'est le peuple élu. Tandis que les chiens, ce sont les païens. C'est elle, la femme cananéenne. Et on ne donne pas les perles aux pourceaux, a dit Jésus. Et on ne donne pas les bénédictions qui sont pour Israël, on ne les donne pas aux païens. La parole de Dieu, la grâce de Dieu, c'est pour Israël, c'est pour les enfants, c'est pas pour les petits chiens, c'est pas pour les païens. Nous pouvons comprendre que cette parole est plus dure que son silence, plus cruelle encore que son refus. On me dit donc, il me traite de chienne? Il faut savoir qu'en ce temps-là, en Israël, on traitait les païens de chiens. C'était commun, parce qu'ils étaient infidèles, impurs, étrangers aux promesses de l'Alliance. Frères et sœurs, ici l'épreuve était à son comble. Le combat au point le plus rude. Cette tentation va plus loin que les autres, mais c'est ici aussi que brille dans tout son éclat la foi endurante et persévérante, je dirais même conquérante, de la cananéenne. On répond à son appel par le silence, à sa détresse par le refus, à sa soumission par le mépris. Oui,
C'est ici qu'elle aurait pu être vaincue, si elle avait pu l'être. Mais elle ne peut pas être vaincue parce qu'elle ne veut pas douter. C'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et de cette injure même, elle se forgera une arme contre le Sauveur et triomphera de son mépris. Elle accepte d'être une chienne. C'est vrai? Je suis auprès de ton peuple ce qu'un chien est auprès des enfants. Oui, Seigneur, c'est exact. Je suis une païenne, étrangère à ton peuple, une misérable pécheresse, indigne de tes faveurs, indigne de tes grâces. Mais je ne demande pas à être assise à la table des enfants, ni même à la table des maîtres, mais en tant que chienne. J'ai droit à la part des chiens. Et les chiens, les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Seigneur, une seule miette de ton festin, une seule parole de ta bouche, bref, un mot seulement, et ma fille est guérie. Sent ici son cœur battre de sympathie et d'admiration pour la femme cananéenne. Le Seigneur lui-même lui dit, « Ô femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, à l'instant même, sa fille fut guérie. Remarquez comment à ce stade du combat, les rôles sont inversés. C'est l'homme qui triomphe et le Seigneur qui se rend. C'est le Créateur qui dit à sa créature qu'il te soit fait comme tu veux. Frères et sœurs, à tel combat, telle victoire, plus la Cananéenne a été éprouvée, plus sa délivrance fut précieuse et sa foi fortifiée. Et avec quelle joie ne revit-elle pas sa fille délivrée du démon lorsqu'elle arriva à la maison. « Oh, ma fille !» Elle comprit alors que si le Seigneur l'avait beaucoup éprouvée, c'est parce qu'il l'avait beaucoup aimée. Il y a dans l'Écriture l'exemple d'une femme qui s'appelle Marie. Et Jésus était à un festin invité par un pharisien. Et cette femme, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons, est venue aux pieds de Jésus. Elle a pleuré sur ses pieds, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et Simon, le pharisien, se disait, « Ouh là 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 là, ouh là 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 là, si le maître savait qui est cette femme !» Et Jésus lui propose une parabole. Et la conclusion de cette parabole était celle-ci. « À qui l'on a beaucoup pardonné ?» Il lui sera donné de beaucoup aimer. Vous pensez que cette femme cananéenne a suivi le Seigneur après? Quand Jésus a été enseveli et que les femmes sont allées au tombeau le dimanche matin et que la tombe était ouverte, la pierre roulée, la tombe ouverte, le corps avait disparu, qui est resté dans le jardin? C'était cette Marie pour laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Elle est restée, elle attendait, elle cherchait son maître. Et tout à coup, il était là. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Oh ben dis donc, ce serait bien le moment. Hein? Non, elle a dit Rabouni, c'est tout. Rabouni, maître. Elle l'aimait. L'aimes-tu ?
quelqu'un a dit quelque chose de très bien dans la prière. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Quand j'ai été appelé pour être pasteur, j'ai dit, ah non, 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 ah non, ça c'est pas pour moi. Je suis pas assez bon, je suis trop mauvais, je suis ceci, je suis cela. Et j'ai lu ce texte. Je ne sais plus si c'est par hasard. Et j'ai dit finalement au Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mes chers amis, il ne suffit pas d'admirer la Cananéenne, il faut imiter sa foi. Si un jour nous nous trouvons dans une situation semblable à la sienne, alors rappelons-nous son histoire. Comme elle, quand le Seigneur semblera se taire, nous repousserons le découragement. Comme elle, quand le Seigneur semblera refuser nos requêtes, nous persévérerons dans la prière. Comme elle, quand le Seigneur nous rappellera notre indignité, nous ne nous révolterons pas, nous nous soumettrons, nous adorerons et nous nous abandonnerons à lui sans réserve, dans une pleine confiance. Comme elle, envers et contre toutes les apparences, nous continuerons d'espérer, de croire, de prier et comme elle, nous finirons par triompher. Car, comme à elle, le Seigneur nous dira en son temps, mais toujours au bon moment, qu'il te soit fait comme tu veux. Une remarque. Il faut faire attention. Il ne s'agit pas ici de tenter Dieu, de demander contre sa volonté en cherchant à forcer sa main. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Gardons-nous d'une telle attitude. Dieu est et reste souverain. Absolument, totalement. Mais justement, remarquez que c'est quand la Cananéenne a reconnu dans le Fils de David, le Seigneur Dieu trois fois saint, le Créateur tout-puissant, son Créateur, qui a par conséquent tous les droits sur elle, sur sa créature, qu'elle s'est humiliée devant lui, reconnaissant son indignité, reconnaissant son péché, sa misère, et par là même, elle accepte de n'avoir aucun titre, aucun droit à ses faveurs, aucun mérite, pas le moindre, absolument aucun. Sachant que tout ce qu'elle recevra désormais ne lui sera accordé que par grâce, pure grâce, rien que grâce. Donnée aux pécheurs humbles et repentants à cause de l'immensité infinie de l'amour de Dieu pour eux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquons donc que c'est justement à ce moment-là, au moment où elle dit « Oui, Seigneur », c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Ô femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». La foi, toujours la foi. La foi qui vient de Dieu, la foi qui est instruite par la parole, la foi qui est conduite par l'Esprit. Voilà la cause de notre régénération. Voilà le secret de notre force, le résumé de notre vie chrétienne. Car par elle, rien n'est impossible à Dieu. Et nous l'avons compris, mais je le souligne encore une fois, la foi dans ce contexte, c'est reconnaître notre indignité. Nous soumettre au Seigneur, en nous confiant, en nous abandonnant à sa grâce, à son amour, totalement, entièrement. Voilà la foi qui glorifie Dieu, et voilà la foi qui triomphe en tout et partout. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quelle question, hein? Trouvera-t-il encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont le courage de prendre Dieu au mot, de lui faire confiance absolument, de lui abandonner leur vie entièrement afin qu'il puisse nous conduire
dans les chemins de la justice à cause de son nom, dans les épreuves, dans les tentations qu'il a prévues pour nous, dans la joie ou dans la peine, dans la santé ou dans la maladie, l'échec ou la réussite, en un mot, où il veut, comme il veut, pourvu que notre foi glorifie Dieu et reçoive le prix de la vocation céleste qui nous a été adressé en Jésus-Christ. Juste avant de conclure, encore un exemple. J'aimerais vous raconter une histoire vraie. C'est aussi l'histoire d'une femme. Il y avait un couple. Elle était chrétienne, profondément chrétienne. Lui n'était pas converti. Et en plus, il était alcoolique. Et cette femme, elle a prié pour la conversion de son mari, encore et encore et toujours. Pendant 30 ans, elle a prié, « Seigneur, mon mari, tu peux le convertir. » Une nuit, au milieu de la nuit, à 4 heures du matin, voilà que son mari rentre, peut-être un peu éméché, peut-être carrément ivre, avec 4 copains. Il réveille sa femme, il lui dit, « Dépêche-toi, lève-toi, fais-nous à manger. » Elle, sans dire un mot, elle se lève, elle fait à manger à son mari et à ses copains, puis elle retourne se coucher. Le lendemain matin au travail, les collègues de cet homme l'ont pris par le collet et lui ont dit, « Toi, t'es un brut, t'es un méchant, comment tu agis avec ta femme ?» Une femme comme tu as, tu devrais la traiter autrement. Cette parole l'a choquée, peut-être même l'a dégrisée d'un coup. À l'instant même, il s'est converti. Radicalement. Et sa femme a pu dire, ce n'est plus le même homme. C'est un mari aimant, prévenant. Quelle différence ? C'est la foi qui fait toute la différence. La présence de Dieu, c'est la vie. L'absence de Dieu, c'est la mort. Et je termine en disant, oui, croyons, et la vérité nous affranchira. Croyons, et nos prières seront exaucées. Croyons, et nous ne manquerons de rien. Croyons et nous triompherons des épreuves. Croyons et nous aurons la vie éternelle. Croyons, mais croyons comme la Cananéenne. Et Jésus nous dira, ô femme, ô homme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Pourquoi ? Parce que ta volonté s'est alignée sur la mienne. Alors tu peux avoir ce que tu veux, qu'il te soit fait comme tu veux.